le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans ce service protestant ce dimanche matin sur France Culture. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Frédéric Rognon, professeur à la faculté de théologie protestante à l'université de Strasbourg. Et il nous propose un nouveau regard sur une parabole assez connue, c'est la parabole des noces.
La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble, de Jésus-Christ qui nous aime et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous conduit. Pour toi, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, où que tu sois, chez toi, seul ou en famille, dans ta voiture, dans une chambre d'hôpital ou une cellule de prison, où que tu en sois avec le Seigneur, ce temps t'est proposé, ce temps t'est donné. Un temps mis à part dans notre vie, un temps avec Dieu, un temps à l'écoute de sa parole, un temps de prière et d'abord un temps de louange. Louange à toi, Dieu éternel. Tu es le pain de notre faim. Tu es la source dans nos déserts. Tu es la lumière dans notre nuit. Tu es le rocher dans nos tempêtes. Tu es le berger qui nous conduit. Tu es l'huile sur nos blessures. Tu es la porte de notre vie. Louange à toi, Dieu d'amour. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes invités à la repentance. Père, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie, afin qu'elle soit apaisée par toi. C'est vrai, tu n'es pas le seul Dieu dans mon existence. Il y en a tant d'autres, je le reconnais. Et puis, il y en a un immense, et c'est moi-même. Rappelle-moi sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Écoutons à présent les paroles de pardon et de grâce. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier, car Dieu est amour. En Jésus-Christ, tu es aimé de Dieu et tu es pardonné. Que cette ferme assurance t'habite et te fasse vivre. Que son pardon t'arrache à la mort et te donne d'entrer dans la vie éternelle. Amen. Nous lirons tout d'abord, dans l'Ancien Testament, le psaume 137, le psaume 137 dans son intégralité, des versets 1 à 9. sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements ». Babylone la belle, toi qui vas être ravagée, heureux celui qui te rendra la pareille pour le mal que tu nous as fait. Heureux celui qui saisira tes enfants et les écrasera sur le rocher. Nous lirons ensuite dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, les versets 1 à 14. Jésus leur parla encore en parabole. Il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. » Venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes ?» Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Chers amis, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, il y a certains textes bibliques que je ne comprends pas, qui me semblent totalement opaques et énigmatiques. Et il y en a même qui m'irritent, qui m'exaspèrent, tant ils me paraissent odieux et scandaleux. Il y a en particulier des textes de l'Ancien Testament qui expriment une violence insupportable, comme la finale de ce psaume 137 que nous avons lu tout à l'heure. « Heureux celui qui saisira tes enfants et les écrasera sur le rocher. » Heureux, oui, heureux, c'est une béatitude. Heureux celui qui saisira tes enfants et les écrasera sur le rocher. Signalons entre parenthèses que nos recueils de cantiques ont censuré la fin de ce psaume, comme certains versets d'autres psaumes. Dans le recueil « Nos cœurs te chantent », le psaume s'arrête au verset 6. Dans le recueil arc-en-ciel, le psaume 137 est carrément absent. Quant au recueil Alléluia, il fait dire au dernier verset le contraire de ce qu'ils disent. Mais est-ce que c'est une solution d'éluder ou d'édulcorer? Ne peut-on regarder ces textes en face, tels qu'ils sont? Ainsi, par exemple, pour ce qui concerne le psaume 137 et d'autres textes de l'Ancien Testament qui parlent de violence, on peut dire qu'ils nous aident à verbaliser notre colère, notre haine, notre désir de vengeance et à les remettre à Dieu pour qu'il les accueille, qu'il les prenne en charge, pour nous en dégager, pour nous en libérer. Les psaumes sont en effet des prières et des chants, des prières chantées. Ils servent à dire à Dieu ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes, à lui remettre tous nos affects au lieu de les refouler. Ils servent en quelque sorte de catharsis, c'est-à-dire de purification de notre vie intérieure par la parole. Dire la violence et le désir de meurtre que nous portons en nous, afin de ne pas passer à l'acte, afin de laisser Dieu nous en affranchir, nous en émanciper. La parole, la prière, plutôt que la violence. Mais il y a aussi des textes scandaleux et violents dans le Nouveau Testament et même au cœur des évangiles. Des textes qui nous donnent envie de fuir et d'aller vers d'autres religions ou d'autres spiritualités, vers le bouddhisme, le soufisme ou le New Age. Mais pourquoi les fuir au lieu de les approfondir? Pourquoi les censurer au lieu de les creuser? Alors ce matin, chers amis, j'ai choisi de vous en présenter un qui m'a toujours rendu perplexe, qui m'a longtemps irrité, jusqu'à ce que je l'étudie d'un peu plus près. Il s'agit de la parabole dite des noces, que nous avons également lue tout à l'heure. Qu'est-ce donc que cette histoire d'habits de noces, qu'il s'agit de revêtir sous peine d'être jeté dans les ténèbres où il y a des pleurs et des grincements de dents. Tout d'abord, nous sommes dans une parabole du royaume. Ces paraboles du royaume sont égrenées tout au long de l'évangile de Matthieu, depuis le chapitre 13 jusqu'au chapitre 25, et nous donnent chacune une image de ce qu'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à un homme, à un grain de moutarde, à du levain, à un trésor caché, à un marchand, à un filet, à un roi. Ici, dans notre parabole, le royaume des cieux est semblable à un roi. Le royaume des cieux doit être bien différent de tout ce que nous connaissons pour qu'il y ait besoin de toutes ces images, pour que nous puissions essayer de l'imaginer, de nous en approcher par l'imagination. Ce roi organise des noces pour son fils. Et une fois le festin mis en place, il envoie ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités. Ceux qui étaient invités étaient donc déjà au courant de l'invitation. Ils savaient que les noces allaient avoir lieu et qu'ils y étaient conviés. Et cependant, ils se dérobent et déclinent l'invitation, trop occupés à leur champ et à leur commerce. Curieux tout de même. Est-ce que vous vous comportez comme cela lorsque vous êtes invité à un mariage? Mais le plus curieux, c'est que les conviés se saisissent des serviteurs, les outragent et les tuent. Alors le roi se venge en les faisant périr. Nous sommes là en pleine extravagance, comme toujours avec les paraboles. Chaque parabole part de réalités banales dont chacun peut faire l'expérience. Et puis, à un moment, cela dérape, cela devient extraordinaire, fabuleux, et nous entrons dans une autre logique. ce qui montre bien qu'il ne faut pas lire ces paraboles au pied de la lettre, de manière littérale, ce serait absurde. Avez-vous déjà vu des invités se comporter ainsi et un hôte se conduire de la sorte? La meilleure façon de lire correctement ces paraboles, me semble-t-il, c'est de les lire selon ce que l'on appelle l'analogie de la foi. L'analogie de la foi, c'est-à-dire de les lire en cohérence avec l'ensemble du message évangélique, de chercher quelle est cette cohérence, où se niche-t-elle dans le texte, et de repérer les éléments décisifs de l'histoire qui permettent de faire de ce texte une pièce du puzzle de l'évangile plutôt qu'un objet dépareillé. Et pour cela, de discerner la pointe du texte, l'intention de son auteur. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Poursuivons donc le récit avec ces questions. Le roi demande à ses serviteurs d'aller inviter tous ceux qu'ils trouveraient dans les carrefours et les chemins. « Méchants et bons », précise le texte. « Méchants et bons », tous sont invités. « Méchants et bons », cela semble être un élément décisif. Les méchants et les bons sont associés pour la fête. Et la salle de noces est pleine de convives. Et nous voilà avec cette histoire, elle aussi tout aussi saugrenue, d'un homme qui n'a pas revêtu son habit de noces. Le roi lui demande comment il a pu entrer et il garde le silence. Alors le roi dit à ses serviteurs, « Attachez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Là encore, nous sommes en pleine extravagance, en pleine excentricité. Quel est l'hôte qui se comporterait ainsi avec son invité qui n'aurait pas mis sa cravate ou qui aurait une tache sur son veston? Entre ceux qui se dérobent et celui qui n'a pas revêtu sa robe, le roi se comporte à la manière d'un tyran. Faut-il donc identifier le roi à Dieu, comme on l'a souvent fait? Faut-il identifier les invités désinvoltes aux croyants un peu trop tièdes et le convive mal vêtu à l'incroyant, à l'incrédule, au mécréant, à celui qui ne vit pas selon l'Évangile, comme on l'a souvent fait? Faut-il donc voir dans cette parabole un moyen de terroriser les malcroyants en les menaçant de l'enfer, comme on l'a souvent fait? Est-ce cela l'image du Père que Jésus est venu nous révéler lorsqu'il s'adresse à nous de façon décryptée, en dehors des paraboles? Alors excusez-moi, chers amis, mais si c'est ainsi qu'est le Dieu de Jésus-Christ, je suis athée de ce Dieu-là. Mais rassurez-vous, je lis cette parabole autrement, et je ne suis pas athée du Dieu dont elle nous parle. Reprenons donc les éléments qui constituent la pointe du texte. Le roi jette dans les ténèbres celui qui est débraillé. Remarquons que c'est le seul qui est chassé dans les ténèbres. Et voilà le second élément décisif. Un seul est puni et supplicié. Même les invités désinvoltes ne sont pas jetés dans les ténèbres où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ils sont tués, ils sont morts, mais ils ne sont pas soumis à ces supplices. Rien ne nous est dit sur leur sort après la mort. Il n'y en a qu'un qui soit condamné, expulsé, supplicié. C'est là, à mon avis, le cœur du message et la clé de l'énigme. Un seul. Qui est-ce donc? Un seul pour tous. Un seul qui paie pour tous. Qui est-ce? Sinon le Christ lui-même. Cet homme débraillé, sans vêtements de noces, c'est Jésus lui-même. Cet homme qui garde le silence quand on l'interroge et qu'on le menace, c'est Jésus qui s'est tu devant Pilate. Tous les autres sont revêtus d'un habit de fête, les méchants et les bons, tous. Car Jésus est celui qui a pris sur lui nos fautes et a été condamné pour nous à notre place. C'est ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens dans un texte aussi énigmatique et scandaleux. celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Mais oui, il faut aller jusque-là, dans la compréhension du mystère de l'amour de Dieu. Jésus est devenu péché pour nous. Il n'est pas devenu pécheur, il est devenu péché. Nous qui sommes menteurs, adultères, voleurs, meurtriers, nous surtout qui nous sommes éloignés de Dieu, qui avons rompu avec lui, nous sommes lavés du péché. Quant à Jésus, qui n'a rien fait de tout cela, il est devenu mensonge, adultère, vol et meurtre pour nous. Il est devenu rupture et éloignement à l'égard de Dieu pour nous. Et il a payé pour nous. Il a été jeté dans les supplices, les pleurs et les grincements de dents. Il est descendu aux enfers, comme dit le Credo. Tout cela a été fait pour nous. Et cela est en cohérence avec l'ensemble du message évangélique. Alors on pourrait dire, mais ce Dieu est bien cruel, qui jette son Fils dans les tourments. C'est ici, chers amis, que je vois tout l'intérêt de croire à la Trinité. Si nous croyons que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, si donc Jésus-Christ n'est pas un autre que Dieu, mais qu'il est Dieu comme son Père est Dieu et comme le Saint-Esprit est Dieu, alors ce n'est pas un Dieu qui jette cruellement un homme, a fortiori son Fils, dans les supplices. Ne soyons pas prisonniers d'une lecture littérale ou allégorique de la parabole selon laquelle un roi expulse un convive. Le roi ne représente pas le Père, il représente le royaume, puisque c'est le royaume des cieux qui est semblable à un roi. Non, selon la foi trinitaire, c'est Dieu, en tant que Jésus-Christ, qui s'est donné pleinement pour nous. C'est un don de soi, et non pas le sacrifice de quelqu'un d'autre. Dieu s'est donné pleinement à la souffrance et aux tourments, aux pleurs et aux grincements de dents, pour que nous, qui sommes pécheurs, en soyons libérés, en soyons sauvés. Et cela est en cohérence avec l'ensemble du message évangélique. Et la parabole se termine ainsi. « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Là encore, la formule est étrange. La parabole vient de nous dire que la salle de noces était pleine de convives, et la leçon de la parabole consiste à nous dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On ne peut donc pas raisonnablement identifier les convives qui sont innombrables aux élus qui sont très peu nombreux. Les convives seraient peut-être plutôt les appelés que les élus. Pour moi, cette formule finale ne peut signifier que très peu d'hommes seront sauvés à la fin des temps. Peu d'élus peut donc vouloir dire, par euphémisme, pas d'élus, aucun élu. Cette formule signifie donc que nous ne sommes pas dignes d'être sauvés, aucun d'entre nous, mais que seul Jésus a payé pour que nous soyons sauvés. Cette formule signifie l'amour infini du Père, sans lequel nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Et cela encore, c'est en cohérence avec l'ensemble du message évangélique. Alors pour finir, chers amis, quelle incidence cette parabole peut-elle avoir sur notre vie? Eh bien, cette parabole peut tout changer dans notre vie. Car elle nous dit que Jésus a payé. Il a pris sur lui nos fautes et notre indignité. Il s'est fait péché pour nous. Nous n'avons rien à craindre d'un tourment éternel. Nous n'avons nullement à nous sacrifier pour quoi que ce soit. Nous n'avons pas à nous soucier de notre salut, ni pour nous, ni pour ceux que nous aimons. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, ou plutôt à vivre, recevoir cet amour infini de Dieu et faire de notre vie une action de grâce, une louange permanente, un cantique, oui, faire de toute notre vie un cantique, un chant d'amour pour dire merci à Dieu pour l'œuvre déjà accomplie une fois pour toutes en Jésus-Christ. Amen. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit-Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous terminons notre méditation de ce matin en recevant la bénédiction qui vient de notre Père Céleste. Pour toi, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, où que tu sois, où que tu en sois avec le Seigneur, reçois la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera ton cœur et tes pensées. En Jésus-Christ. Amen.
Ainsi s'achève ce service protestant avec le pasteur Frédéric Rognon, professeur à la faculté de théologie protestante à l'université de Strasbourg. Merci à Viviane Noël et à Michel Mestre pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Sachez que vous pourrez retrouver le texte de cette émission dans son intégralité sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Si vous désirez ce texte par courrier, vous pouvez écrire au service radio de la Fédération protestante de France, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Très bon dimanche à tous. Dans un instant, le journal et la suite des émissions avec Talmudic et Marc-Alain Wachnin.